Mélissa Généreux est avec nous comme à tous les lundis. Bonjour Mélissa.
Bon matin, Steve.
La COVID longue ce matin, on a parlé souvent des cas qui étaient plus extrêmes, qui amenaient à l'hospitalisation. Il y a des gens qui ont peu de symptômes, mais il y a des gens aussi qui ont des symptômes qu'on appelle plus persistants. Alors, on parle de la COVID longue ce matin. Qu'est-ce que c'est exactement? Quelle définition on pourrait rattacher à ça?
Mais premièrement, je veux dire que c'est un concept qui est de plus en plus reconnu, mais ce n'est pas encore très, très bien établi partout. Mais je te dirais que jusqu'à présent, on a comme tendance à dire « tu as la COVID ou tu ne l'as pas ». Puis après ça, habituellement, dans deux semaines, on va considérer que les gens sont rétablis, sauf évidemment les gens qui en sont décédés. Donc, dans nos statistiques, on ne voit pas…
C'est plus nuancé que ça, là.
Exactement, parce que, et je te dirais que même l'OMS et le CDC américain, donc c'est quand même pas rien, ont reconnu le plus récemment l'existence de la COVID longue. Donc la COVID longue, ce serait qu'une fois qu'on est réputé être guéri ou rétabli de la COVID, il y a quand même un certain pourcentage des gens qui vont persister au niveau de certains symptômes, et ça peut durer de quelques semaines à quelques mois. Donc vraiment, les gens qui ont eu un diagnostic et qui, une fois sont rétablis, maintiennent de certains symptômes au fil du temps qui n'étaient pas présents avant la COVID, sont des gens qui, de plus en plus, sont connus comme ayant la COVID longue.
Mais ce sont des gens qui, à prime abord, n'ont pas eu trop de symptômes, qui ont eu ça très léger?
En fait, c'est très variable. Je dirais, là, encore une fois, on en apprend de plus en plus, mais on estime que ce serait 10 à 20 des gens qui ont eu la COVID qui pourraient avoir éventuellement la COVID longue, comme je disais, donc la persistance de symptômes dans les semaines, voire les mois qui suivent. Et parmi ces 10-20 %-là, on se rend compte que c'est très, très variable parce que, oui, il y a des gens qui ont été hospitalisés, qui ont été aux soins intensifs, donc la forme plus sévère de la maladie.
Ouais.
Mais on se rend compte de plus en plus qu'il y a aussi des jeunes, des gens qui étaient en pleine forme, là, qui faisaient des qui étaient sur le marché de l'emploi, donc des gens qui n'avaient pas de problème de santé avant d'avoir la COVID et qui sont un peu plus transformés après. On a aussi des gens qui ont eu la forme très bénigne de la maladie, donc peu de symptômes. On a même des gens asymptomatiques qui sont souvent avoir un diagnostic et qui, c'est plus par la suite, vont rapporter des symptômes persistants qu'on attribue à la COVID longue. Donc, tout le monde là, pourrait être à risque de développer la COVID longue.
Il n'y a pas de profil typique, là. C'est pas davantage des hommes, c'est pas une histoire d'âge, il n'y a pas de profil, là.
Bien, en fait, il y en aura probablement un, mais je te dirais que la science est trop jeune.
Okay.
Donc, des fois, tu lis une étude, c'est plus les hommes, des fois, plus les femmes. Donc, tu sais, je te dirais que pour le moment, retenons que personne n'est à l'abri de ça.
Les symptômes?
Mais ça aussi, c'est le mot d'ordre, la variabilité, entre du moins ce qu'on sait pour le moment, parce que premièrement, en termes de temporalité, certaines personnes vont dire, bon, j'ai eu des symptômes persistants pendant 3-4 semaines, d'autres disent que ça a duré plus de 3 mois, disent plus de 6 mois, mais évidemment, on n'a pas plus qu'un an de recul, donc il y en a qui disent, ben j'ai eu la COVID il y a presque un an et j'ai toujours des symptômes, donc est-ce que ce sera des symptômes persistants? Honnêtement, il est un petit peu trop tôt pour le dire, donc ça, c'est très variable, et on se rend compte aussi qu'il y a des gens qui nous rapportent que c'est fluctuant, donc j'étais correcte, je pensais être guérie. Oups, j'ai des symptômes qui sont venus. Ensuite, ils sont disparus, là, sont venus quelques semaines après. Donc, il y aurait cette notion-là de fluctuation dans le temps. Encore une fois, pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes. Mais les symptômes, je dirais que dans les plus couramment signalés, ce qu'on voit dans la littérature, bien, il y a beaucoup de la fatigue. Ça, c'est assez clair. L'essoufflement chez certaines personnes, les maux de tête, la perte d'odorat. On sait que ça, c'est classiquement associé à avoir la COVID. Donc, on sait qu'aussi plusieurs personnes vont dire que ça persiste dans le temps. Avoir un peu mal partout, mais un symptôme qui me perturbe particulièrement, c'est ce qu'on appelle le brouillard mental. Donc ça, c'est des gens qui vont dire, j'ai l'impression que tout tourne au ralenti dans ma tête, que mes idées sont embrouillées, puis c'était pas comme ça avant, donc ça, c'est quand même important. La perte de cheveux, problème de sommeil, et aussi, moi, ça vient beaucoup me toucher, mais tout ce qui est symptômes d'anxiété, dépression, qui pourraient être vivement plus présents une fois qu'on a eu la COVID qu'avant.
Mais donc,
et en raison de ça, raison de ça, c'est qu'il y a des jeunes en bonne santé qui sont plus capables de faire d'exercice, qui sont même plus capables d'aller prendre une marche dans des cas plus extrêmes, des gens qui ont dû arrêter le travail ou vraiment réduire les heures ou qui disent même avoir de la difficulté à vaquer à leurs occupations quotidiennes.
C'est assez capoté, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'abord pour aider ces gens-là?
Bien, la première chose, je dirais, c'est de ne pas s'auto-diagnostiquer parce que ça peut être tentant de dire, mon Dieu, je suis fatiguée, je suis plus essoufflée, je suis moins en forme, je dois avoir la COVID longue. Je veux juste vous rappeler qu'il y a beaucoup de gens à l'échelle de la planète qui, sans avoir eu la COVID, se sentent moins bien parce qu'on sait que l'anxiété, dépression sont beaucoup augmentées à l'échelle de la planète.
Ça peut être autre chose,
j'en ai beaucoup parlé.
Oh, oui.
Et ça pourrait être une maladie physique autre. On a même vu des cas de cancer, finalement, des gens qui pensaient avoir la COVID longue, qui, après investigation, avaient une autre cause encore plus sévères. Donc ça, vraiment, c'est d'aller consulter. Il faut savoir qu'il existe une clinique post-COVID, entre autres à Sherbrooke et ailleurs au Québec ou au Canada. Donc ça, c'est quand même une belle initiative. Mais je ne veux quand même pas que vous fassiez d'attendre parce que si on vous pose le diagnostic, malheureusement, pour le moment, il n'y a pas de traitement pour guérir la COVID longue. On ne peut pas juste prendre un antiviral ou un traitement puis penser que ça va être guéri. Donc, ça va être vraiment une gestion des symptômes. Vous avez des problèmes de sommeil, mais on va vous aider à bien gérer l'insomnie. Vous avez beaucoup de stress, de fatigue, on va vous aider à vous réentraîner à l'effort et à l'exercice et à reprendre un contrôle sur votre vie. Vous avez perdu l'odorat, on va vous rééduquer pour votre olfaction, là, votre sens de l'odorat. Donc, bref, pour continuer à, selon l'OMS, là, à faire beaucoup plus de recherches, parce que comme tu vois, il y a encore des trous de connaissances, avoir plus de reconnaissance de ce diagnostic-là et surtout plus de soutien pour la réadaptation, incluant le volet psychologique.
C'était fascinant. Merci beaucoup, Mélissa Généreux.
Ça fait plaisir.
Au plaisir, la docteure Mélissa Généreux qui nous parlait de la COVID longue, une autre de ces affaires bizarres liées à la COVID.